et bienvenue dans Les mots des livres. Nous sommes ensemble et on dirait jusqu'à 19h. Je suis Laurence et au programme de cette émission, deux invités, Gwenaëlle Robert, Jardin pour Royaume par aux éditions Presse de la Cité et Fantôme d'Augura. C'est le titre du dernier ouvrage d'Hubert Delahaye à retrouver aux éditions L'Asiathèque. Vous pouvez nous suivre sur la bande FM 98.0 ou sur idfm98.fr. Et avant de retrouver ces deux plumes de la rentrée littéraire, on va écouter un peu de musique. À tout de suite.
J'ai la gorge nouée, une porte à pousser. Tu ne dois rien savoir de mon émoi. C'est un jour de soleil, mais tout est triste en moi. Et je me suis juré d'être forte pour toi.
FM Radio, le média valdoisien.
Et nous retrouvons notre invité Gwenaëlle Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre dernier roman. Il s'intitule Un jardin pour royaume. C'est paru aux éditions Les Presses de la Cité. Mais avant d'évoquer ce dernier titre, on peut déjà rappeler que vous êtes l'auteur de précédents romans, dont Le Dernier Bain, c'était en 2019, il a reçu le prix Bretagne, puis en 2023, Sous les feux d'artifice, qui lui a reçu le prix Ouest. Vous avez écrit d'autres romans, mais Un jardin pour royaume, eh bien, on peut le dire, va peut-être recevoir un prix, qui sait, il fait partie de la longue liste de la rentrée littéraire. Alors déjà, comment ça se passe cette rentrée? Vous avez beaucoup de retours autour de ce roman, de ce jardin pour royaume?
Oui, alors d'une part, bah, évidemment, ce qui est toujours très important, c'est d'avoir des retours de libraires. Et c'est vrai que là, j'ai été surprise de voir que beaucoup d'entre eux m'ont contacté, que ce soit à travers mon éditeur ou sur les réseaux sociaux, pour me dire qu'ils avaient été Très touchée par cette lecture, voilà, et je crois qu'effectivement, dans les retours que je peux avoir surtout des lectrices avec ce roman, je crois que ce qui touche en particulier les lectrices, mais bon, aussi les lecteurs, c'est le caractère universel, peut-être, oui. du questionnement de ce roman, au-delà de l'histoire particulière qu'il raconte, c'est aussi un questionnement sur la fin de l'enfance, et puis sur les liens qu'on peut avoir, sur le rapport qu'on a avec nos racines et les lieux qui nous ont vus grandir.
Et c'est là toute l'histoire, hein. C'est en effet des sujets assez universels, vous venez de le dire. C'est la narratrice qui va voir son dernier enfant, sa dernière fille, quitter le nid. Mais c'est pas que ça, c'est aussi le retour sur sa propre enfance, à cette narratrice qui va retourner là où elle a vécu, là où un autre grand écrivain a vécu, un grand philosophe, un certain Jean-Jacques Rousseau. Et il va y avoir un parallèle entre cet homme et ses préceptes de l'éducation, qu'on peut dire un peu discutable lorsqu'on connaît l'homme, hein, Jean-Jacques Rousseau, vous n'allez pas me contredire, n'est-ce pas ? Et cette femme qui, elle, au contraire, a une autre notion de l'éducation et de cette relation entre parents-enfants et entre elle-même, enfant, et ses parents.
Oui, alors c'est amusant parce qu'il y a à la fois évidemment des différences et beaucoup de points communs. Le propre de l'éducation, c'est que c'est évidemment pas une science exacte et qu'on voit bien comment chacun, selon les situations particulières et les époques, a essayé de trouver le moyen d'éduquer ses enfants selon les préceptes qui lui semblaient justes. Alors c'est vrai que chez Rousseau, c'est très discutable puisqu'on sait tous que lui-même a abandonné ses propres enfants. Mais peut-être que chez le marquis de Girardin, oui. qui a conçu ce parc d'Hermenonville où il accueille Jean-Jacques Rousseau pour ses derniers jours, peut-être que chez le marquis de Girardin, il y a en tout cas quelque chose de profondément sincère dans sa démarche, c'est-à-dire qu'il a lui-même, il applique lui-même tous les préceptes de Rousseau avec ses propres enfants. Et je crois qu'il y a quelque chose qui me touche quand même dans la figure de ce personnage et qui rappelle aussi un petit peu sans doute la bonne volonté de tous les parents qui cherchent à trouver un moyen d'élever les enfants dans la société ou dans ce cas-là peut-être un peu hors de la société, sans doute pour leur bien.
Et c'est ce qu'on découvre, hein. On va aller avec beaucoup de sensibilité retourner sur les pas de ce philosophe Jean-Jacques Rousseau, sur les terres, vous le rappeliez, à la fois de ce marquis et à la fois de la narratrice, hein, qui a vécu, hein, près de ces terres-là. C'était aussi l'occasion pour faire un parallèle entre le passé, le présent, l'évolution de, je dirais pas des mœurs, mais des relations.
Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Je crois que c'est ce qui m'intéresse toujours dans l'histoire, et c'était déjà le cas dans mes romans précédents, qui ont également un ancrage historique très important, c'est de trouver des liens, enfin tout ce qui nous relie en fait au passé, mais tout ce qui se répète aussi dans nos vies, et dont on trouve un écho à travers des exemples passés. Et là, c'est vrai que la narratrice est saisie au fur et à mesure de cette pérégrination en fait sur les terres du marquis de Girardin, et saisie aussi par les ressemblances qui existent entre l'idéal de ses parents et l'idéal du marquis de Girardin, sa propre enfance et l'enfance des enfants de Girardin, et puis la façon dont tout change à un moment par l'accès à l'âge adulte et puis aussi par les événements historiques qui sont racontés.
Et cette fameuse question, hein, qui revient, comment sort-on de l'enfance ? À la fois donc la narratrice qui voit ses enfants partir, à la fois elle-même qui repart sur les traces de son enfance, c'est vraiment une question fil rouge. Hein.
Oui, je crois que c'est quelque chose, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était très fort quand on voit ses enfants grandir, c'est qu'en fait ça nous ramène à notre propre, évidemment à notre propre enfance, et surtout à cette... ce passage, cette limite qu'on a franchie quand on a quitté l'enfance sans s'en rendre compte. Et je crois peut-être même avec une certaine avidité, parce qu'on est toujours content de grandir et puis d'accéder à l'âge supérieur. Alors que quand on le voit chez ses enfants, bah, on a davantage de recul, on a davantage d'expérience, et peut-être qu'on a une espèce de lucidité sur ce qu'ils sont en train de vivre, qu'on n'a pas eu évidemment quand on était nous-mêmes en train de grandir. Alors j'ai l'impression que ça répète, peut-être qu'on revit une seconde fois cette perte de l'enfance à travers ses propres enfants.
Alors, on peut aussi dire que on voyage donc dans le passé, aux côtés de Jean-Jacques Rousseau, du Marquis. Vous faites une narration au présent, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être sur les pas, de se promener avec ces illustres hommes du passé. Et après, on revient sur notre présent narratif. Et il y a aussi ces phrases, mais vraiment, là vraiment, j'adore votre plume. Vous dites.
Merci.
Par exemple, hein, ce qui n'est pas nommé disparaît. Nommer mon village, c'est lui donner une chance d'exister encore, d'entrer dans la mémoire souple de la littérature où il sera là ou moins, à l'abri des changements à venir, des extensions, des constructions. Là, je vais pas tout citer, mais c'est magnifique parce que on adhère réellement à ce que vous dites, tant ça a du sens, tant on est dans une époque où tout va tellement vite, où on passe par les réseaux sociaux, on écrit, une minute après c'est oublié, c'est effacé. Et là, vous le rappelez, mais noir sur blanc, grâce à ces mots, en effet, il faut dire les choses, il faut laisser une mémoire, se rappeler du passé pour mieux grandir. Et effectivement, lorsque l'on est enfant, on oublie. Quand on est adulte, on oublie vite qu'on a été un enfant, alors que finalement, on l'est un peu toujours. C'est un magnifique voyage, à la fois dans son jardin intime, hein, un jardin pour royaume. C'est vraiment le titre, et ça parle à beaucoup de gens parce que c'est celui d'hier, d'aujourd'hui, de demain, et qu'on souhaiterait faire découvrir à tout le monde, tout en gardant un peu ce jardin secret pour soi.
Oui, je crois que le jardin, évidemment, ici, il s'incarne de façon très concrète à travers le projet du Marquis de Girardin, qui était quelqu'un qui était passionné par les plantes, qui voyait le jardin comme une succession de tableaux, quasiment de peintures, qui avait conçu son jardin de cette façon-là. Donc il y a évidemment cette représentation très concrète, mais je crois que sinon, effectivement, le jardin de chacun, c'est notre enfance, c'est aussi toute la métaphore des racines qui nous enracinent dans un lieu, dans une région où on a grandi et à laquelle on a le sentiment d'appartenir, même quand on l'a quitté. Et puis bien sûr, le jardin, c'est aussi le royaume de l'enfance. Et je raconte un peu comment pour la narratrice, comme pour les enfants du Marquis, au fond, cette enfance, elle est intimement liée à ce lieu qui était un petit peu envisagé comme le paradis, comme l'Éden, c'est-à-dire ce premier jardin avant la chute des hommes.
Et c'est ce que vous nous faites découvrir dans Un jardin pour royaume. Lorsqu'on lit le portrait du Marquis, on se dit que vous avez dû quand même aller vous documenter pour retrouver beaucoup, parce qu'on a plus de traces, je dirais, de Rousseau que de ce Marquis, ou je me trompe?
Ah oui, bien sûr, oui. Et c'est un peu à travers Rousseau qu'on pouvait retrouver la trace du Marquis. Il y a très peu de choses en fait sur le Marquis de Girardin, et puis le château d'Ermenonville et le parc ont été eux-mêmes transformés, enfin divisés en plusieurs parcelles et profondément modifiés par rapport à l'intention initiale de leur créateur. Mais en revanche, c'est vrai que la dernière œuvre de Rousseau, qui est inachevée, qui s'appelle Les rêveries du promeneur solitaire, c'est une œuvre qui est divisée en promenades, et chaque promenade, c'est une promenade qu'il fait dans ce jardin. Donc on voit apparaître, je dirais, en creux, si vous voulez, la topographie de ce jardin à travers les écrits de Rousseau. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a quand même quelques mémoires de cette époque, de ce jardin qui a vu passer en fait aussi Marie-Antoinette, des empereurs. Enfin voilà, il y a quand même quelques témoignages historiques. Mais c'est vrai finalement que c'est quelqu'un d'assez méconnu, et puis surtout qui ensuite est mort vraiment loin de ce jardin. Donc il fallait retrouver sa trace, et ça c'est aussi le privilège des romanciers, c'est de pouvoir marcher sur les traces de personnages dont l'histoire a un peu effacé la mémoire.
Alors, quand on referme ce livre, hein, on se met, là encore, hein, vous le rappelez au début, comme cette narratrice, à réfléchir sur ses relations, son enfance et ce travail hein, qu'elle a sur Rousseau. C'est un peu de vous, cette narratrice ?
Alors, moi, j'ai grandi, effectivement, pas très loin de Rousseau. Donc, c'est vrai que je connais très bien cette région, je connais bien ce jardin et j'y ai évidemment des souvenirs personnels. Mais pour le reste, non, il y a beaucoup de compositions, c'est un roman. Ensuite, je crois qu'on s'exprime bien sur ce qu'on connaît bien soi-même, et c'est vrai qu'il y a toujours une part de soi dans les personnages qu'on crée. Et je me suis sentie souvent proche d'elle dans ses réflexions et dans cette émotion de l'enfant.
Eh bien, moi, je vous invite, amis auditeurs, à découvrir Un jardin pour royaume. C'est Gwenaëlle Robert qui en est l'autrice. C'est paru aux éditions Les Presses de la Cité dans la rentrée littéraire. Alors, est-ce que on peut donc vous suivre sur les réseaux sociaux, si j'ai bien compris ?
Oui, sur Facebook et sur Instagram, c'est Gwen RBT. Voilà.
Et on va pouvoir vous croiser lors de séances. Vous parliez tout à l'heure du bon accueil des libraires.
Oui, alors là, je reviens du salon de Nancy. Je serai au salon du Mans le week-end prochain. J'ai quelques dédicaces en librairie également. Et tout est sur ma page Facebook et sur Instagram. Voilà, je préviens systématiquement et je donne le programme des rencontres.
Eh bien, c'est noté. On va aller sur vos réseaux sociaux, Gwenaëlle Robert. Et en attendant, en librairie, si vous n'avez pas la chance, je parle à nos amis auditeurs de vous croiser tout de suite, eh bien, on se précipite découvrir Un jardin pour royaume et on guette la prochaine venue près de chez nous, hein, de Gwenaëlle Robert pour une dédicace, une rencontre, échanger autour de ce magnifique roman de la rentrée littéraire des éditions Presse de la Cité. Merci encore à vous, Gwenaëlle Robert, et puis on se dit à très bientôt, peut-être pour un autre roman.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Bonne journée. Bonne soirée, pardon.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
De ma rue, une silhouette comme un bruit aigu se rapproche à hauteur de mes yeux nus. La silhouette, c'est une fille, jour de fête nationale, ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde me sourire, je baisse la garde et les yeux pour me dire belle demoiselle. Presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Du milieu de ma rue, la silhouette comme un nuage s'éloigne sans un bruit, alors c'est de plaire. C'est pas vraiment la fête, pourtant j'ai l'air de lui plaire. Qu'ai-je fait, oh bon Dieu, pour être fidèle à cet aveu. La belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Accessible comme une hirondelle. Je calcule dans ma tête, dopé à l'effet de plaire. C'est quand même la fête, le fantasme qui peut distraire. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Merci mon Dieu, mais je tire un trait sur cet aveu. La belle demoiselle sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes. Poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau. Reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses,
oh, ça, citoyen,
il est grand temps qu'on propose
un monde pour demain.
Citoyens, quelques baffes à prendre. La veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir. Puisqu'il faut changer les choses,
oh, ça, citoyen,
il est grand.
FM Radio, le média valdoisien.
Et nous, ah, nous avons raté notre invité, alors un instant. On remet un peu de musique, à tout de suite.
Tu fais briller ma flamme. Tu fais...
retrouver notre invité Hubert Delahaye. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre dernier roman. Il s'intitule « Fantôme d'Ogura ». C'est paru aux éditions L'Asiatech dans la collection Liminaire.
Allô ?
Oui, je vous entends. Vous m'entendez ?
Oui, ça y est,
voilà.
Oui.
Et donc, je rappelais le titre de votre roman, « Fantôme d'Ogura », paru aux éditions L'Asiatech. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots auprès de nos amis auditeurs ?
Mais bien volontiers, oui. Je m'intéresse à beaucoup de choses, je me suis intéressé à beaucoup de choses, et en particulier au Japon, dans le Japon, à un petit village qui s'appelle Ogura, qui se trouve pas très loin de Kyoto, que je connais et que je fréquente depuis une quarantaine d'années, presque, oui, 45. Et ça m'a donné l'occasion de voir comment vivaient les gens. Et en particulier pour ces fantômes de Gura, comment vivait une vieille dame qui est morte. Alors, comme elle est morte, elle n'est pas complètement morte, forcément. Alors, son fantôme raconte des choses qui se sont passées pendant sa vie. Et il y a quelques années, j'avais déjà publié un petit livre qui s'appelle « Lettres de Gura ». Et qui concernait ce petit village, mais d'une manière plus vaste, plus élargie. Là, il s'agit d'une personne qui est morte, mais que j'ai connue de son vivant, et qui m'a toujours beaucoup plu, pour son caractère, pour sa gentillesse, ses bonnes manières, sa correction, son côté japonais, sans doute. Voilà.
Vous nous racontez l'histoire de cette femme, de ce fantôme, entre guillemets, car au final, c'est un esprit, hein, une gardienne des lieux que vous nous faites découvrir et dont on, grâce à ce témoignage, grâce à ce récit, on va découvrir les relations des anciens avec les nouvelles générations. On va aussi revenir sur ses propres relations avec ses trois filles qui sont assez distendues.
Excusez-moi, j'ai pas très bien entendu.
Cette femme qui a disparu et qui va donc hanter, entre guillemets, les lieux, sa maison, son village. Elle va beaucoup voyager malgré
l'absence de son corps.
Voilà. Et on va donc découvrir des lieux incroyables et aussi ses propres souvenirs sur ses relations aux autres, sur sur la vie.
Oui, c'est l'histoire d'une vie d'une façon un peu impressionniste, parce qu'évidemment, chez les fantômes, le réalisme n'est pas de mise. Hein.
Non.
Alors, quelques souvenirs épars, des gens, des figures qui dansent avec elle dans le monde des fantômes.
Et malgré cela, on voit aussi que sa vie de famille était aussi parsemée de ces fantômes. Elle parle de sa maman qui...
Oui, bien sûr, l'espace est un endroit peuplé, en fait, de certaines figures qui restent, qui sont presque là, qui sont pas là, mais presque là. Et j'aime bien le côté fantastique qui est derrière chacune de nos vies, qui sera peut-être notre sort aussi, pourquoi pas.
Alors c'est un roman qui est à la fois plein de tendresse, il y a aussi de l'humour, et aussi on voit la difficulté qu'a votre héroïne à communiquer avec ses propres enfants.
Mais oui, parce que les enfants sont partis, et j'avais parlé de ça plus en détail dans un livre précédent. Et les enfants sont partis, et quand les enfants ne sont plus là, la vie change, le monde change. ne reste plus que des ombres et des souvenirs. Et c'est le monde des fantômes, privilégié des fantômes.
Et de ces campagnes aussi désertifiées ?
Comment dit-on ?
Et c'est aussi un portrait de ces campagnes qui voient sa jeunesse disparaître ?
Oui, oui, la campagne aussi, enfin, comme partout, les choses changent avec les années. Et puis, il y a eu des phases où, même si la nature sauvage ne changeait pas, même s'il y avait déjà toutes sortes d'animaux, de faune et de flore, c'était ça aussi, ça a été sujet à changement, parce que quand les enfants s'en vont, et que les parents ne sont plus là, les maisons sont vides. Et les maisons, c'est très important pas seulement dans nos vies, mais dans un petit village perdu dans une vallée comme ça. Si bien que tout cet univers devient lui-même fantôme. On se demande si le village existe encore avec ses maisons qui se vident et ses temps qui changent.
Alors, Fantôme d'Ogura, c'est paru aux éditions L'Asiatech. On peut rappeler L'être d'Ogura, qui est l'ouvrage qui précède ces fantômes. Néanmoins, on peut les lire de façon distincte, mais ça peut être un plus de lire d'abord L'être d'Ogura, comme ça on retrouvera facilement et les personnages et les lieux de cet endroit assez incroyable que vous connaissez, on le voit bien à travers la lecture de votre ouvrage, et qui nous fait vraiment voyager dans ce pays du soleil levant, qui est un pays plein de poésie et qui est retranscrit grâce à votre plume. Merci beaucoup Hubert Delahaye, on le rappelle, Fantôme d'Ogura, paru aux éditions L'Asiatech, et ça ne pas manquer pour celles et ceux qui veulent lire un magnifique ouvrage qui nous parle à la fois avec délicatesse d'un esprit qui est à la fois proche et si lointain. Merci à vous, monsieur.
C'est moi, merci.
Et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Et nous, on se retrouve juste après un peu de musique. En espérant que ce voyage au Japon vous plaise, je vous invite à aller sur le site des éditions L'Asiatech pour en savoir plus sur ce très beau texte d'Hubert Delahaye. Je vous rappelle, Fantôme au pluriel, Fantôme d'Ogura, d'Ogura. La prononciation n'est pas terrible, mais c'est le nom de ce village du Japon.
T'es comme un voile qui s'accroche à tous les clous. Tu t'effiloches, tu t'abîmes à tous les coups. Love you.
C'était Clara Luciani avec Cœur. Alors aujourd'hui, on a appris une triste nouvelle, la disparition d'un des frères Jackson, Tito, à l'âge de 70 ans. Alors on va lui rendre un petit hommage en mettant une des chansons phares de cette fratrie, les Jackson 5, avec Blue Me Down the Boogie.
IDFM Radio, le média valdoisien.
No, I can't let you my hands.
Why was it? Couldn't grab me away. Why was it? Couldn't grab me away. Decided to show me the same.
FM Radio, le média valdoisien.
Le soir, tu verras les brouillons leur cachet pour voir. Tu sortiras les disques de leur pochette. Notre histoire. Tu la verras défiler dans ta tête.
écoute ce qu'il reste de nous, immobile et debout, une minute de silence, ce qu'il reste c'est tout, de ces deux cœurs immenses, et de cet amour. Si tu y penses, en souvenir de nous, une minute de silence. Écoute passer une nuit blanche dans tes volutes fumées bleues. Cette minute de silence est pour nous.
Et c'était Yael Naïm avec son très beau titre Paris. Nous étions en début d'émission avec Gwenaëlle Robert pour son très beau roman Un jardin pour Royaume par aux éditions Presse de la Cité. Puis nous avons voyagé jusqu'au Japon avec Hubert Delahaye et son dernier opus Fantôme de Goulois paru aux éditions L'Asiathèque. On va se quitter en musique. Je vous invite à nous écouter hein, sur les bandes IDFM à radio. On se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à aller sur le site idfm98.fr. On se quitte en musique avec Un autre voyage au Portugal et Lisboa de Wendy Nazaré.
Déjà dans mes veines, le creux qu'a laissé les larmes et la distance de 2000 kilomètres.
C'est parce que t'as le même gorgé de soleil et de souvenirs qui dansent au rythme des fadours de leur robe noire et crise immense.
Y'a comme un goût de par cœur que je parcours dans tes soirs, tes matins. Quand on n'est ni sœur ni amant avec ou sans lendemain.
On a ces mêmes grands plats, ces grands hommes qui nous ont marqués au fer.
Depuis Salazar, le marquis de Pombal, jusqu'à nos terribles grands-pères.
Chère abeille,
déjà
t'aime ça,
chère Aloua,
chère Aloua,
chère Lisboa,
chère Lisboa.
Chère
abbé,
elle a
jeté un sort,
ma chère Aloua,
chère Aloua,
chère Lisboa,
chère Lisboa. Perdu entre la mer et les montagnes, mentolées de Sintra, toi tu te repères avec un nuage d'allégria.
T'as ce ligne de conduite de suivre le vent, et peu importe les marées hautes ou basses, orages, tourments, pourvu qu'ils t'emportent.
Para 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 para
chère abeille,
et là j'atteins sol,
et j'atteins sol,
ma chère Aloua, chère Lisboa, chère
abeille,
et là j'atteins sol,
et j'atteins sol,
ma chère Aloua.
Tu t'es rebâti après un séisme pire que l'enfer. Plus belle, plus rayonnante, tu nous éclabousses de lumière. Et ça me rassure de savoir que même quand nous ne serons plus là, même juste en l'air encore, on te sentira. Chère Aloua, chère Lisboa, chère.
cher abbé, déjà t'insol, ma chère loi, chère lichboa.